Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Le grand oral des grandes gueules.
Guillaume Pelletier, vice-président Les Républicains, est avec nous. Bonjour, monsieur le vice-président.
Bonjour.
Guillaume, vous avez fermé la porte des Républicains avant de partir ? Non, il en reste encore à l'intérieur ?
Ah, je vous sens d'humeur taquine, là, ce matin. Non, mais vous savez, il y a ceux qui disent, et qui pensent, c'est leur droit, que c'est très compliqué. Et c'est vrai que ce fut une semaine compliquée. Et il y a ceux comme moi et comme beaucoup de Français qui pensent que cette clarification était nécessaire. Moi, je suis très fier, avec Christian Jacob, Éric Ciotti, d'avoir posé enfin cet acte fondateur d'une frontière étanche entre nous et le macronisme. Emmanuel Macron, c'est le pire président de la Ve République. Emmanuel Macron, il suffit de regarder son bilan. Dis-moi quel est ton bilan, je te dirai qui tu es. C'est le record de la dette, c'est le record des impôts, c'est le record de l'immigration, c'est le record de l'insécurité, c'est le record de la bureaucratie. Vous avez vu ce matin, c'est extraordinaire. Si vous avez compris quelque chose à l'interview du Premier ministre, vous m'expliquerez, parce que moi je n'ai rien compris. Eh bien, il y a en France une grande force politique, 5 millions de sympathisants, ça n'est pas rien, selon les différentes études, qui disent, ces sympathisants et ce parti, nous ne voulons ni d'Emmanuel Macron, ni de Madame Le Pen. C'est encore un droit démocratique que de vouloir proposer autre chose.
Sur vous-même, de vous rétrécir, parce que finalement, Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est un ancien du RPR, qui a toujours été à droite, Hubert Falco, le maire de Toulon, on peut pas. C'est quand même des gens de droite, de famille politique qui s'en vont. C'est quand même pas un exemple d'un mouvement qui progresse, qui séduit. On a l'impression que, au contraire, ce mouvement, le vôtre, les Républicains, ils sont en train de se rétrécir.
Je crois tout le contraire. Je pense que quand la droite s'excuse d'être elle-même, elle se rétrécit. Et quand la droite s'assume d'être elle-même, elle se grandit et donc elle grandit. Oui, il y a quelques départs, mais il y aura des milliers d'arrivées de Français, des catégories populaires, des classes moyennes, qui considèrent que le travail ne paye plus, qu'il n'y a plus d'écart entre le travail et l'assistanat, qui considèrent que le laxisme est généralisé, qui considèrent que l'immigration n'est pas une chance pour la France, qui considèrent que la bureaucratie est en train de tuer notre qualité de vie, de tuer nos territoires ruraux. Eh bien, cette France-là, cette majorité silencieuse, elle attend autre chose que ce duel dans lequel on tente de nous enfermer entre Macron et Le Pen. Il y a une autre voie.
La majorité silencieuse, elle va voter Marine Le Pen, si elle va voter.
Mais enfin, vous... Ah bon ?
Ah bah oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que dit Marine Le Pen.
Mais
c'est ce que disent au moins les intentions de vote, Guillaume
Pelletier. C'est très drôle, parce qu'il faut que chacun, moi le premier, nous tirions les leçons des 20 ou 30 dernières années. Est-ce que quelqu'un avait vu Chirac arriver en 94, Sarkozy arriver en 2006, Hollande arriver en 2011 ou Macron arriver en 2016? C'est dans un an l'élection présidentielle. Alors je veux bien qu'ici,
Chirac, votre Sarkozy.
Ce serait la deuxième erreur de croire que l'incarnation compte plus que les idées. Nous sommes en train, avec Christian Jacob, de présenter aux Français un contrat de gouvernement et un corpus idéologique clair. La droite française, c'est le parti qui veut réhabiliter la valeur travail face à l'assistanat, qui veut réhabiliter l'autorité face au laxisme et qui veut réhabiliter la liberté face à la bureaucratie. Deuxièmement, un constat stratégique. Il y a une frontière avec le Rassemblement national, il y a une frontière avec Emmanuel Macron.
C'est quoi la frontière avec le Rassemblement national? Parce que Éric Ciotti dit finalement, ce qui nous différencie du Rassemblement national, c'est que nous, on a une capacité à gouverner. C'est pas grand-chose, en fait.
Est-ce que vous pouvez me citer une seule personnalité des Républicains qui fait alliance avec le RN? Non, il n'y en a pas une.
Non, ils sont partis.
Aujourd'hui, nous avons gagné les élections municipales.
Jean-Paul Garot, Thierry Mariani.
D'accord. Et vous voulez qu'on parle des centaines de parlementaires, d'élus locaux, de maires, de sympathisants qui nous rejoignent? Je veux bien qu'on résume la politique française, c'est votre droit.
Mais vous ne répondez pas sur
si,
le fond.
Si, je réponds clairement sur le fond. Il y a une frontière étanche avec Madame Le Pen, il y a une frontière étanche avec Macron. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on propose aux Français? Voilà. Je répondais à votre question de positionnement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas parler de Monsieur Macron, de Madame Le Pen, c'est de parler aux Français. Eh bien, parlons du fond.
Qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport à Macron sur le plan économique ou par rapport à Marine Le Pen sur le plan de la sécurité?
Alors, sur le plan économique, trois propositions très concrètes ce matin. Je propose, par exemple, que les 20 000 euros que l'État attribue à un chômeur français aujourd'hui en moyenne chaque année, soit immédiatement donné à une PME ou une TPE qui embaucherait en CDI un chômeur. Plutôt que de financer le chômage, finançons la reprise du travail. Ça coûterait rien à l'entreprise, tout le monde serait gagnant. Le chômeur devient salarié, l'entreprise ne paye pas de charges et tout le monde est gagnant. Deuxième proposition que je fais, moi c'est ma contribution au projet des Républicains, c'est que pour tous les Français, salariés, fonctionnaires et retraités, le brut devienne le net. Votre salaire brut devient le salaire net. On supprime...
Ça, c'est séduisant.
Non, je vais vous expliquer très concrètement.
Mais comment vous faites ?
Je vais vous dire. D'abord, on supprime les cotisations patronales et salariales. Parce que ça pèse sur la compétitivité des entreprises, ça coûte des milliards d'euros depuis 100 ans, puisqu'on a taxé le travail pour financer notre modèle social. Je tiens à notre modèle social, mais il faudra le réformer et lutter contre les gaspillages et les fraudes. Qu'est-ce que je propose ? C'est une lutte contre les gaspillages. D'abord, on peut récolter 15 milliards à 20 milliards d'euros supplémentaires en luttant de manière acharnée contre les fraudes sociales, par la création d'une carte vitale biométrique, par exemple, en punissant plus lourdement les fraudeurs fiscaux et sociaux. Deuxièmement, je propose moi un micro-prélèvement de 2% sur les paiements électroniques et scripturaux du quotidien. Un exemple très concret. Vous prenez un salarié français moyen. Il gagne aujourd'hui 1700 euros net. Avec ma proposition, il gagnerait demain 2200 euros net. Il paye plus de charges. Son brut devient son net. En échange, s'il fait par exemple un plein de course à 50 euros, il donnerait 1 euro à l'État. Il reçoit 500 euros en plus, comme il si paye 50 euros.
Vous augmentiez la TVA.
Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est quand même l'impôt.
Non, c'est un paiement sur les paiements électroniques et scripturaux. C'est pas simplement sur tout ce qui est lié à la consommation.
Donc, c'est 50 euros de course, il faut qu'il les fasse à Amazon pour que...
Non, il tire 100 euros à un distributeur, il paiera 2 euros. C'est-à-dire que c'est un changement de philosophie. On peut ne pas être d'accord.
Ça, c'est validé en tout cas, c'est une... les Républicains ou c'est votre proposition à vous ?
Non, c'est ma proposition. Il y a un certain nombre de Républicains qui sont favorables. Nous y travaillons. Moi, je m'adapterai au programme qui sera décidé. J'ai entendu que Xavier Bertrand était intéressé, ça me réjouit.
Donc en fait, vous faites un programme et ensuite vous chercherez votre candidat pour
exactement
l'incarner.
Exactement. Ça fait 40 ans qu'on a fait l'inverse, on a vu le résultat. Moi, je veux d'abord...
Il y a eu Sarkozy quand même.
Moi, je veux d'abord un projet.
Vous avez deux présidents de la République.
Très clair.
C'est pas mal quand même.
Oui, mais... Hélas, et c'est une faute collective, on n'a pas été assez loin dans les mesures, dans la capacité à tenir nos engagements. Moi, je fais partie de la jeune génération. Je n'ai participé à aucune majorité ni aucun gouvernement. Et ce que je veux demain, c'est proposer aux Français une espérance et la garantie que nos promesses seront tenues. Comment ? En présentant dès maintenant un contrat de gouvernement que les Français pourront signer, que nous signerons avec eux, avec des propositions très concrètes.
Vous êtes quand même dans une situation qui n'est pas très simple. On vous entend, parce que malgré tout, la proposition de démolition du modèle social que vous proposez, les libéraux le font déjà, ils l'ont déjà fait avant, et ils ne voient pas. Effectivement, si vous voulez, si on a d'un côté une espèce de droite libérale, une droite des grandes entreprises, qui se retrouve entièrement dans Macron, donc je ne vois pas votre espace, donc vous pouvez accentuer la démolition du modèle social en tapant finalement sur les plus précaires, ce que vous dites, la fraude à la sécurité sociale, on sait qu'aujourd'hui les plus grandes fraudes c'est l'évasion fiscale, c'est pas la fraude en fait du Pékin moyen, donc ça déjà je trouve ça très démago. Et par ailleurs, quand je vous entends et que vous tapez comme vous tapez effectivement sur l'immigration, que vous parlez de sécurité, etc., toutes ces rodomontades, en fait Marine Le Pen le fait beaucoup mieux que vous. Donc du coup, moi je suis électeur de droite, si j'étais électeur de droite, pourquoi on vote pour vous en fait? Parce que soit on vote finalement pour la droite libérale qui a toujours existé tout le temps, d'ailleurs Bayrou et Jamaquet avec Macron, Estrosi, Castex, etc., le maire, ou sinon, effectivement, j'ai envie d'une droite populaire, et dans ces cas-là, je vote Front National, elle est implantée auprès des jeunes comme vous ne l'êtes plus, auprès des classes populaires comme vous ne l'êtes plus. Je ne vois pas votre espace, en fait.
Alors, je vais vous répondre très concrètement. D'abord, sur le modèle social, un, j'y suis très attaché. Deux, je trouve...
Vous proposez le démolition ?
Non, pas du tout. Deux, je trouve que 700 milliards de dépenses sociales chaque année en France, pour le résultat qu'on connaît, c'est beaucoup trop et c'est très mal foutu. Aujourd'hui, il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Entre quelqu'un chez moi en Sologne qui se lève le matin pour aller bosser et gagner 1200, 1300, 1400 euros net et le voisin qui est allocataire du RSA et qui touche les primes au logement, il n'y a plus d'écart. Surtout que celui qui bosse, il va devoir payer pour sa bagnole et payer une nounou pour garder ses enfants. Eh bien, moi, c'est mon histoire. Je suis fils des classes moyennes. Je veux réhabiliter la valeur du travail. Et je suis profondément...
Lycée, vous n'êtes quand même pas fils de pauvre, hein, pardonnez-moi, puisqu'on doit tous dire on était ensemble au lycée.
Vous étiez ensemble au lycée.
Voilà, donc vous n'êtes pas fils de pauvre.
Mais est-ce que j'ai dit fils de pauvre? Non, fils des classes moyennes. Mon père était ouvrier.
Comme moi, comme vous. Voilà, c'est pas grave.
Mais qu'est-ce que vous connaissez de ma famille?
Pas grave. Enfin bon, faites-nous pleurer.
Mais je fais pleurer personne. Moi, je raconte de manière authentique mon histoire. Mon père était ouvrier, artisan, plombier, étanchéité. Et ma mère était laborantine à l'hôpital. Je viens des classes moyennes.
D'accord.
et j'en suis très fier. Je suis un milieu de cordée.
C'est classe moyenne. C'est classe moyenne. Tout le monde veut s'en occuper.
Je vais en parler.
Bah oui, mais c'est mieux pour s'en occuper. C'est mieux pour s'en occuper d'en venir.
Et c'est classe moyenne. On les a vus manifester parce que les gilets jaunes au départ, c'est une révolte de classe moyenne. Bon, après qui a été récupéré par les extrêmes.
Beaucoup d'artisans, les premières.
Des artisans. Ces gilets jaunes justement se sont révoltés. Qu'est-ce que la droite peut proposer? Alors j'entends ce que vous dites. Vous dites finalement il y a un problème de salaire en France. Les salaires sont trop bas. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer de plus à cette classe moyenne qui se sent déclassée, oublier la mondialisation, qui a l'impression de ne plus être dans la partie?
Bien, je crois justement qu'il faut faire l'effort. Je sais que c'est compliqué, moi j'entends, hein, je respecte vos positions, respectez la mienne. Moi je veux sortir du duel Macron-Le Pen. Je crois que la droite, si elle est gaulliste, si elle est populaire, si elle est sociale, si elle présente un contrat de gouvernement clair avec des mesures très concrètes, celles que j'ai expliquées, mais il y en a plein d'autres sur la ruralité, sur la bureaucratie ou sur l'identité ou l'immigration que je peux vous présenter à nouveau. Si nous sommes capables, avec une nouvelle génération, de présenter ce contrat de gouvernement, de dire que nous croyons à la valeur travail, que nous considérons, malgré la pensée unique, que l'immigration n'est pas une chance pour la France, que 2 millions d'étrangers fait entrer par M. Macron depuis son élection, c'est beaucoup trop et que ça ne marche plus.
La droite a toujours dit ça. Une fois qu'elle est au pouvoir, l'immigration ne recule pas.
Eh bien, c'est tout l'enjeu pour notre génération. Je peux vous dire qu'avec un certain nombre, avec David Lisnard, avec Éric Ciotti, avec Rachida Dati, avec plein de personnalités de la droite, nous avons envie, une fois revenus aux responsabilités, d'aller très loin. Par exemple, sur l'immigration. J'ai vu que Michel Barnier reprenait ma proposition, j'en suis heureux.
Un moratoire
immédiat sur l'immigration pendant 5 ans. L'expulsion immédiate de tous les fichiers étrangers FSPRT, les 4111 étrangers. La non-régularisation des clandestins. Tout ça, je le propose dans un contrat de gouvernement pour 100 jours que les Français pourront signer. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais il y a une alternative à Macron-Le Pen. Et je crois penser que 70% des Français attendent autre chose que Macron-Le Pen.
Jean-Marty.
Les classes moyennes, ça fait 30 ans que les partis politiques se construisent dessus, en particulier au moment des élections. Ça fait 30 ans que les élections se font sur les classes moyennes, 30 ans que la droite, la gauche, le centre n'ont pas de mots assez doux pour les classes moyennes au moment des élections et assez durs pour elles pendant les 5 ans qui suivent, puisque, rappelons-le, dans ce pays, à peu près 80% de l'impôt est payé par les classes moyennes. Et on les surtaxe, et on les étrangle, et on les tue, et c'est comme ça qu'on a les gilets jaunes, etc., etc. Vous allez vous retrouver devant un problème qui va être énorme, qui est celui du paiement de la dette du Covid. Puisque le robinet de l'argent a été plus que largement ouvert, que vous êtes dans un pays où vous avez 10 millions de gens sous le seuil de pauvreté, donc une assurance maladie qui a de moins en moins de cotisants et qui va se retrouver encore plus en déficit à cause de cette dette Covid. Comment allez-vous faire pour à la fois réussir le pari d'une classe moyenne qui paie moins d'impôts et d'une assurance maladie que vous allez devoir sauver parce qu'elle va être en grand péril dans les premiers mois de votre mandature si, par chance, vous êtes élu?
Alors, j'adhère totalement à votre analyse des 40 dernières années. Et c'est d'ailleurs, pour être totalement sincère et authentique, le moteur premier de mon engagement. Moi, je viens de cette classe moyenne, je suis fier de mon histoire. Je ne suis ni fils de riche, ni fils de pauvre. Je viens de ces milieux de cordée, 70% des Français, qui considèrent que depuis 40 ans, tout est fait ou pour ceux qui sont tout en haut, ou pour ceux qui sont tout en bas. Et que ce sont toujours les mêmes, ceux du milieu, qui payent. Et que cet engagement, je le porte dans ma chair, dans mon histoire, dans mes erreurs, dans mes convictions et dans cette espérance. Comment faire? D'abord, en faisant davantage confiance à des gens qui, comme moi, n'ont pas fait l'ENA, n'ont pas fait Sciences Po, viennent de ces classes moyennes et portent 40 années. Moi, c'est 40 années de ma vie. Donc c'est mon combat. Moi, je veux, à la fin de ma vie, pouvoir me retourner et dire à mes enfants, voilà, j'ai essayé avec force, avec détermination, de protéger cette France du travail, cette majorité silencieuse qu'on n'écoute jamais et à qui on demande toujours tout et toujours trop. Comment faire concrètement? D'abord, en posant comme acte premier l'augmentation des salaires des travailleurs, sans que ça coûte un seul centime aux entrepreneurs. C'est à travers la proposition que j'ai faite. Deuxièmement, en étant très courageux sur la dette, de deux manières. Il y a deux dettes. Il y a la dette Covid, qui est pour moi une dette de guerre, qui doit être portée par la Banque Centrale Européenne et financée, elle doit être remboursée, mais pas sur 3-4 ans, sur 30 ans, sur 50 ans, sur un temps plus long, financée par des nouvelles ressources, une taxe carbone aux frontières de l'Union Européenne, une taxe sur les transactions financières ou une taxe sur les GAFAM. C'est possible. Et puis la dette française, puisque je rappelle que l'année de ma naissance, à la fin des années 70, il y avait zéro dette et que 40 années après, la classe politique, avant moi, avant nous, nous laisse 2 500 milliards d'euros de dette à ma génération. Eh bien, pour ce faire, il faudra être très courageux sur les gaspillages. Il y a 15 à 20 milliards à récupérer. Isabelle Saporta, je suis pas d'accord avec vous. Aussi bien sur les fraudes fiscales et sociales. Pour moi, la droite, depuis 40 ans, elle nous dit c'est la faute aux fraudes sociales et la gauche nous dit c'est la faute aux fraudes fiscales. Pour moi, c'est la faute aux deux. Un fraudeur fiscal et un fraudeur social pénalisent le principe même de justice républicaine. Il y a 20 milliards à récupérer selon la commission d'enquête parlementaire. Il y a 10 milliards à récupérer sur le courage des retraites. Oui, il faudra travailler un peu plus longtemps. Pas par un âge légal de départ à la retraite, hein. L'âge couperet de 62, 63, 64 ans. Moi, je propose autre chose. C'est que, sauf pour les métiers pénibles, qui auront des décotes, chaque Français cotise sur la même durée, 44 ans, pour sauver le système des retraites et économiser de l'argent. Si vous avez commencé tôt, vous partez plus tôt. Si vous avez commencé tard, vous partez plus tard. Je propose aussi 10 milliards d'économies sur l'immigration et 11 milliards sur une politique nouvelle du logement pour permettre à chaque locataire, moi je vois mes parents qui viennent de la classe moyenne, n'ont pu accéder à la propriété qu'à 70 ans, leur revenu était trop faible tout au long de leur vie, et que le principe d'accession à la propriété pour les classes moyennes, c'est central, parce que c'est la liberté au moment de la retraite. Je propose par exemple que les bailleurs sociaux soient contraints de vendre aux locataires sociaux 5% de leur parc locatif chaque année pour qu'on gagne 10 à 20 points de propriétaires en France. Ça, c'est du concret. C'est une politique au service des classes moyennes. On peut ne pas me croire, hein. Mais moi, je dis, plutôt que la fatalité et dire que c'est fichu, il faut un message d'espérance et qu'on s'y mette tous pour enfin parler à la France des milieux de cordée.
Didier Giraud.
Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la position des Républicains dans ce qui reste aux Républicains par rapport à l'Europe? C'est quand même un débat qui est à l'intérieur de tous les partis. Plus d'Europe, moins d'Europe. Je crois savoir que ça fait pas l'unanimité, y compris chez vous. Ça va être quoi votre future ligne par rapport à l'Europe? Moi personnellement, je pense quand même qu'on a été trop vite dans l'ouverture des frontières européennes et dans les pays qu'on a accueillis au sein de l'Europe, et qu'aujourd'hui, si on veut revenir à une Europe qui fonctionne,
faut pas être à 27.
Il faut qu'on fasse plusieurs cercles, quoi, et on peut pas faire autrement.
Alors, c'est dans mon livre modeste, Un milieu de cordée, de l'année dernière. Moi, j'ai voté non au traité constitutionnel de 2005 et j'en suis fier. Je suis profondément européen, comme toute ma génération, mais cette Europe qui nous a été imposée par les technocrates de Bruxelles depuis 1992 est une erreur et une faute. Je souhaite qu'on inverse totalement la construction européenne, c'est-à-dire qu'on se mette tous ensemble pour protéger nos frontières commerciales et migratoires, qu'on négocie mieux sur le plan commercial par rapport aux Chinois, aux Américains. Je propose même que dès 2022, on pose un droit de veto sur les traités du CETA ou du TAFTA et qu'on repense totalement la politique agricole commune en la fondant sur des prix rémunérateurs et non pas des primes.
Pourquoi vous faites pas cette politique quand vous êtes député européen?
Mais je suis pas au pouvoir, moi.
Vous en avez eu des... Bon, peu, avec Bellamy, parce qu'il a fait vraiment un score épouvantable, effectivement, aux européennes. Enfin, vous en avez des députés européens. Pourquoi tous ces gens-là n'ont pas mené la politique dont vous parlez jusqu'à présent?
Nicolas Sarkozy a posé, pour moi, les fondations entre 2007 et 2012 d'une autre vision européenne, c'est-à-dire plus fort à plusieurs à l'extérieur, plus fort à plusieurs pour mener, par exemple, une politique de co-développement avec l'Afrique, parce que l'origine des migrations, c'est la pauvreté et la misère des pays du Sud, ça on est plus fort à plusieurs, mais retrouver à l'intérieur nos souverainetés. Franchement, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui gère la politique des 350 milliards de financement des politiques rurales et territoriales. Est-ce que vous croyez qu'ils sont mieux placés à Bruxelles pour savoir ce que dans le Perche, le Vendômois, la Sologne ou le Berry, ce dont on a besoin? Non. Il faut rapatrier 80% des compétences européennes dans les nations, la souveraineté des nations, l'Europe des peuples, et confier à Bruxelles 5 à 10 grands projets, la négociation commerciale, les frontières migratoires, la politique de co-développement avec le Sud. En fond, l'inverse de ce qui a été fait pendant 40 ans, tout en restant européen, mais une Europe des peuples et des nations.
Un dernier mot, Guillaume Pelletier, parce qu'il nous reste 1 minute 30.
Et c'est l'actualité, cette deuxième tribune signée par des militaires. Alors, la première, c'était plutôt des généraux à la retraite. Cette fois-ci, nous dit-on, mais c'est anonyme, ce sont des militaires en activité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire et au constat fait, établi par ces militaires?
Oui, bien sûr. Il y a qu'à Paris qu'on ne mesure pas le risque de guerre civile dans notre pays. On a 1000 quartiers, selon le ministère de l'Intérieur, qui sont en train de faire sécession avec la République. On a des assassinats et des meurtres de policiers, de gendarmes et de professeurs. On a le terrorisme. On a la délinquance qui explose. Je rappelle, 700 agressions par jour et 260 500 agressions à l'égard de nos concitoyens chaque année. C'est le record absolu de la Ve République avec Monsieur Macron. Et on voudrait aujourd'hui faire une polémique sur les messagers, les lanceurs d'alerte, en l'occurrence les militaires, plutôt que de s'attarder sur le message profond des Français qui nous disent on n'en peut plus de cet état laxiste, on n'en peut plus de cette justice trop lente, on n'en peut plus de ce laxisme pénal. Moi, je le dis avec force, dans le prolongement de ce que portent ces militaires, mais à travers eux, tous les Français. On a besoin d'un retour de l'ordre et de l'état de droit, de la fermeté de mesures très concrètes, des forces d'intervention spéciales dans nos quartiers populaires, la création de centres éducatifs fermés à encadrement militaire dans chaque département pour que toutes les minorités qui pourrissent la vie des gens soient immédiatement soustraits à ces quartiers et rééduqués, l'expulsion des délinquants étrangers, des mesures très concrètes pour qu'on dise qu'en France, tout le monde est le bienvenu. La France est généreuse à une condition. C'est qu'on aime la France et qu'on respecte notre droit.
Merci Guillaume Pelletier, vice-président Les Républicains, de passer par les GG.